Alors, pour évaluer un peu l'efficience de cette filière, on avait plusieurs critères, j'en ai retenu qu'un, c'est celui du nombre de patients thrombolisés. Vous avez en bleu ici le nombre de patients qui ont été thrombolisés avant la mise en place de la filière Lorraine, et en rouge, les nombres de thrombolyses après la mise en place de cette filière. On a multiplié par 6 le nombre de patients thrombolisés environ par rapport à la situation avant la mise en place de cette filière. Je vous remercie.
Dans la précipitation, certains messages peuvent paraître un petit peu anodins, mais sont extrêmement importants. Vous avez en termes de responsabilité, bien sûr, toujours une responsabilité morale en premier vis-à-vis du patient, de lui offrir, de le prendre en charge selon les meilleures données de la science actuelle. Et on a parlé, un, de la thrombolyse, on n'y reviendra pas beaucoup. Elle a déjà été située, c'est vrai que c'est ce qui nous motive. Et le deuxième point qui va beaucoup bénéficier aux patients, même si l'intérêt apparaît moins immédiat, c'est celui de sa prise en charge dans une unité neurovasculaire. Et là, je vais donner la parole au docteur qui est praticien hospitalier chez nous en neurologie, qui partage son temps en fait entre Bar-le-Duc et Nancy. Qui lui a permis de mettre en place la télémédecine, la téléthrombolyse, de façon pour l'instant pas encore suffisamment habituelle, mais on est vraiment en passe de développer cette façon de brancher le patient, voilà encore pour faire au mieux pour lui.
Merci, bonsoir. Donc, donc le docteur nous a amené donc ce patient par ambulance, parfois par hélicoptère. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire et comment ce patient va pouvoir bénéficier de soins. Surtout que parfois, on nous les amène et il n'y a pas d'indication de thrombolyse. Et pourtant, ces patients vont bénéficier quand même de soins. L'unité neurovasculaire, si on regarde les résultats, les études qui sont faites, elles sont faites par rapport à des patients qui ont été mis dans des services de neurologie classique. C'est-à-dire que pour montrer que les UNV servaient à quelque chose, on mettait des patients en unité neurovasculaire, on mettait des patients dans des services de neurologie classique et on a regardé leur devenir. C'est des publications qui, au niveau méthodologique, sont bonnes, et qui ont été répétées plusieurs fois. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre deux choses. D'une part, quand vous mettez un patient victime d'AVC en UNV, vous avez 20% de mortalité en moins. Mais je vous entends, si c'est pour en faire des hémiplégiques, ce n'est pas la peine. Vous avez 20% de récupération en plus. Donc vous améliorez d'une part la survie et vous améliorez la qualité de vie. Et pourquoi tout ça? On va essayer de le comprendre. C'est un peu moi tout ce que j'ai appris pendant mon internat. Et le but un peu de cet exposé, ça a été d'aller rechercher dans la littérature si ce qu'on fait c'est démontré, si c'est prouvé. Donc on va pouvoir s'amuser un petit peu avec la littérature. Déjà pour donner une définition à l'UNV, je fais comme vous, je fais comme tout le monde, je vais sur Google et je tape UNV. Voilà ce qui sort. Alors, je vous propose pas qu'on lise tout ça, on pourrait, j'étais exprès de mettre tout petit pour voir un peu toute la peine que j'ai eue, mais ça c'est toutes les caractéristiques, en gros légales, et toutes les caractéristiques que doit remplir une UNV. Vous voyez, c'est pas si facile que ça, il y a parfois des hôpitaux qui me disent « on a envie d'être UNV, on a envie d'être unité neurovasculaire », croyez-moi, au niveau du cahier des charges, c'est assez important pour avoir ce bénéfice. Alors, on va pas faire comme ça, mais par contre, vous pourrez aller lire, c'est la circulaire de 2009 qui définit tout ce que doit remplir en fait une UNV pour être UNV. On va faire autrement, on va prendre le cas d'une patiente. Cette patiente, elle est complètement à l'opposé de ce qu'on vous a décrit jusqu'ici. C'est une patiente en fait qui nous est adressée d'un centre hospitalier qui n'a pas d'unité neurovasculaire, une patiente qui a été prise en charge dans un service, de 82 ans et qui est à plus de 4 jours d'un accident vasculaire cérébral ischémique. Elle se dégrade. On nous appelle parce que ça va moins bien. En fait, c'est même quelqu'un que je connaissais qui me dit « Écoute, ma grand-mère va moins bien, est-ce que tu veux la prendre en charge dans ton service ?» On l'a prise. Cette dame, elle n'a pas d'antécédent. Elle arrive avec une hémiplégie gauche, un score NIH1, ce qui cote en fait le déficit neurologique, et des troubles de conscience avec un Glasgow à 13. Elle a manifestement des signes d'infection, elle a des crépitants de base gauche, une température à 38,9. Sur le CG, alors je me suis fait reprendre par monsieur la dernière fois, elle a un fibrillofleuteur, et pas seulement fibrillation, c'est voilà. Et on voit un scanner cérébral, et sur le scanner cérébral, on voit un accident vasculaire cérébral ischémique, et il y a même une petite suffusion hémorragique. Faites-moi confiance, c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à cette patiente ? Bien beaucoup de choses, parce que ça, c'est la patiente 3 jours plus tard. Voilà, déjà elle tient en fauteuil, donc le Glasgow est à 15. On voit que le côté gauche ne fonctionne pas très bien, qu'elle a une sonde nasogastrique. Et 10 jours plus tard, vous la voyez avec notre kiné qui se dirige vers la sortie. Qu'est-ce qu'on lui a fait pour que ça aille aussi mieux que ça ? Alors, voilà les médicaments stars qu'on utilise et qui ont bonne presse. Voilà. Déjà, le premier, vous voyez tout en haut, c'est l'Actilise. On vous en a parlé jusqu'ici. Maintenant, vous faites plein de choses sur l'Actilise. À votre avis, cette patiente, est-ce qu'on l'a thrombolisée ? Bon, non, on était à 4 jours, vous voyez, on était à 4 jours, en plus, suffusion hémorragique et tout ça, elle est vraiment hors des clous pour la thrombolyse. Et pourtant, vous voyez, elle récupère quand même. Il n'y a pas que ceux qu'on thrombolyse qui récupèrent. Tous les autres bénéficient des mesures unités neurovasculaires. La thrombolyse dans des bonnes UNV, comme à Nancy, c'est 10% à peu près des patients. Il y en a quand même 90% autres qui nécessitent l'unité neurovasculaire, même les hémorragiques. Hein. Donc ça, c'est important à dire. L'héparine, on aurait pu en discuter, elle est en ACFA, voilà, cependant elle a quand même un gros AVC, il y a une transformation hémorragique, enfin une suffusion, c'est pas l'option que j'ai prise quand elle est arrivée le vendredi soir. Sachez que l'héparine à la phase aiguë de l'accident vasculaire, il y a un risque hémorragique et que le risque de refaire un AVC à la phase aiguë, enfin le premier jour, il est de 0,2 à 0,3%. Donc des fois, de mettre une belle seringue électrique à côté du patient, c'est plus pour rassurer le praticien que pour le patient lui-même. L'aspirine, moi j'ai opté pour cette option qui est discutable, mais ça permettait quand même de mettre un traitement, même si ce n'était pas encore le plus adapté pour la prévention cardio-embolique, et une injection de Lovenox 4000 aussi, enfin d'HBPM, excusez-moi, pour en prévention des complications thromboemboliques veineuses. Pourquoi on fait attention à l'héparine ? Parce que tout simplement, je compare toujours l'accident vasculaire cérébral à un fruit tanné. C'est-à-dire que quand vous prenez ce fruit, au départ, vous l'avez laissé tomber et il n'est pas encore noir. C'est certainement à ce moment-là qu'il faut thromboliser le fruit. Parce que plus vous attendez, plus la zone infarctie arrive et plus le risque de transformation hémorragique est important. Et si vous vous mettez, là, le fruit est à l'état du scanner de notre patiente, si vous mettez un traitement anticoagulant trop puissant, ou même un traitement anticoagulant à dose honorable, c'est-à-dire pour un TC entre 2 et 2,5, voilà ce qui peut se passer, c'est-à-dire une transformation hémorragique importante. Et ça augmente avec l'âge du patient. Alors, voilà cette patiente à qui, le premier jour, on a donné de l'aspirine. Voilà ce qu'on a fait en unité neurovasculaire. Deuxièmement, que faire avec la tension artérielle à la phase aiguë de l'accident vasculaire ? Là, vous avez un cas typique de patient qui a présenté, non pas un AVC, celui-ci, c'était un accident ischémique transitoire. La tension à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral, elle monte pratiquement toujours. C'est ce qu'on appelle l'effet Cushing. Peut-être pour contrer l'embole, on ne sait pas bien. En tout cas, quand on doute de la véracité d'un accident ischémique transitoire, vous savez, des patients, c'est toujours difficile de raconter les choses, on tombe toujours sur des histoires un peu compliquées. Le fait, ça, c'est le signe de la pancarte avec les premières tensions qui étaient très élevées, ça doit vous faire dire attention. Il s'est certainement passé quelque chose et c'est ces patients-là sur lesquels il faut faire attention. Et puis, donc ça c'était pour vous dire qu'on fait toujours attention à la tension artérielle de nos patients. Ce patient, il voulait sortir un matin, je n'étais pas d'accord, même malgré son t-shirt, parce qu'il avait toujours 19 de tension, il était très important qu'on équilibre sa tension artérielle avant sa sortie. À la phase aiguë d'accident vasculaire cérébral, on la respecte, la tension artérielle, pour pouvoir avoir cet effet en fait de reperméabilisation au niveau de la zone de pénombre. Ce qu'on appelle la zone de pénombre, eh bien, vous avez cette zone noire du fruit qui est atteinte, et autour, vous avez encore un débit sanguin cérébral qui est maintenu, mais si on la baisse, eh bien, vous allez encore avoir des dégâts supplémentaires. Le rôle de l'UNV, c'est de protéger cette zone de pénombre, et c'est pour ça que les patients meurent moins, et c'est pour ça que les patients récupèrent plus. À la phase aiguë de l'accident ischémique, on respecte la tension artérielle jusque, vous voyez, jusque 220 de systolique. Sinon, on la fait baisser, mais très progressivement, 15 à 25% sur 24 heures. Ça, ce sont toutes les recommandations, vous voyez, sur la tension artérielle. Et on reprend les traitements antihypertenseurs péroses, normalement, pour commencer à faire baisser la tension dans les 24 heures. Attention, en prévention secondaire, bien sûr que la tension doit baisser. C'est le premier facteur de risque de récidive. Après, qu'est-ce qu'on donne à notre patient avec l'aspirine? Eh bien, ce patient allait beaucoup mieux. Sa famille me demande, que je connaissais, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle tient au fauteuil, elle va mieux. Eh bien, on lui a donné de l'eau et à manger. Ça peut vous paraître bête, mais un patient hémiplégique, il ne peut pas s'alimenter tout seul. En plus, il a des troubles de la déglutition. C'est un patient sur deux, les troubles de la déglutition à la phase aiguë de l'AVC. Il faut y penser. Il faut savoir lui apporter et de l'eau et une alimentation. Tout ça avec une surveillance glycémique, c'est les cardiologues surtout qui nous ont appris ça. Normalement, on doit avoir une surveillance et une action dite agressive. Nos patients doivent rester en dessous de 1,4 g par litre de glycémie. Et puis traiter l'hyperthermie parce que cette patiente était infectée, les infections sont très fréquentes et aggravent encore le pronostic neurologique. Tout ça s'est fait grâce à une équipe médicale et surtout infirmière entraînée qui permet vraiment de pouvoir monitorer tous ces éléments rapidement et d'agir surtout très rapidement. Cette patiente, elle a très vite arraché sa sonde nasogastrique, vous voyez tout ça à côté de son chapelet, parce qu'elle avait faim, et puis nous avons pu, grâce à l'orthophoniste, lui donner à manger. Lui donner à manger, c'est très important. La plupart des patients, 41% des patients, pratiquement 50% pardon, des patients à 3 semaines présentent des signes de dénutrition. Le catabolisme est très important. Il est vraiment recommandé d'apporter des calories très rapidement. Vous voyez cette patiente également, il y avait quelque chose qui était très amusant, c'est que regardez l'assiette, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Bien, peut-être qu'elle n'aime pas les légumes verts ou qu'elle n'aime pas la compote et qu'elle la voit couler comme ça sans l'émouvoir. Ce n'est pas ça, c'est ce qu'on appelle l'héminégligence. L'héminégligence, la patiente n'avait pas conscience de ce qui se passait à gauche et c'est le signe du plateau, le patient prend tout ce qui se passe à droite mais rien à gauche. Nos équipes infirmières et aides-soignantes entraînées savent leur redire aller chercher ce qui se passe à gauche pour qu'elles puissent avoir droit à leur dessert et à leurs légumes verts. Le fait de les lever, c'est très important. Ça fait partie également des recommandations. On les lève très rapidement, très souvent même dès le premier jour. Et c'est même s'il n'y a pas d'études qui montrent vraiment objectivement le bienfait, dans toutes les recommandations, c'est dit, il faut les mobiliser, les mettre au fauteuil très rapidement. Voilà, avec kinésithérapie, ergothérapie. Et puis, ce qui est très important, c'est l'apport des neurologues vasculaires qui vont passer tous les jours voir les patients et qui vont pouvoir donner leur expertise. Donc, je ne reviens pas sur la thrombolyse. Enfin, quoi que vous voyez, la thrombolyse, on vous l'a dit, c'est la star. Je dis juste une chose, c'est qu'on a dit que la thrombolyse intraveineuse, c'était 4h30. Je dirais autre chose, la thrombolyse intraveineuse, c'est le plus tôt possible. Plus vous attendez pour thromboliser, moins votre patient va récupérer et plus le fritalier va saigner. Donc, toujours aller plus vite. Quelle solution on a en Lorraine? Eh bien, on vous a parlé de l'expérience de Bar-le-Duc. C'est la télémédecine, c'est-à-dire de pouvoir thromboliser les patients à distance, car actuellement, la loi nous dit qu'un médecin qui n'est pas neurologue peut injecter le produit sous couvert d'une expertise neurovasculaire qui peut se faire par télémédecine. Deux éléments importants pour la télémédecine, on doit avoir accès à la clinique du patient et on doit avoir accès également à l'imagerie pour pouvoir donner la décision. À Bar-le-Duc, une liaison a été mise en place avec le CHU de Nancy, avec 54 patients évalués, 21 thrombolyses effectuées, qui montrent deux choses. D'une part, vous augmentez le nombre de patients que vous avez pu thromboliser, parce que si vous les aviez transférés à Nancy, vous auriez dépassé l'heure, et vous améliorez le pronostic en injectant le produit le plus tôt possible. L'expertise, elle est très importante. Croyez-moi, on essaie d'enseigner la thrombolyse de deux façons, avec une plaquette indication, une plaquette contre-indication. C'est plus compliqué que ça. Très souvent, vous avez des patients pour qui vous posez des questions et c'est vraiment l'expertise d'un neurologue vasculaire entraîné qui va permettre de faire les choses. Par exemple, sur deux états importants, l'AVC du réveil, quoi faire avec un AVC à heure imprécise? Est-ce qu'il faut absolument les exclure? Je ne le pense pas. Actuellement, on a des données grâce à l'imagerie qui permettent d'essayer de dater ces patients et qui permettent d'essayer de leur donner le traitement. Il y a une étude qui a été faite sur les AVC cardio-emboliques et qui montre que ces patients, quand ils arrivent à heure incertaine, très souvent, ils ont encore du territoire en pénombre, ce qui montre bien que, en fait, certainement, l'accident les a réveillés, peut-être à cause d'une céphalée, on ne sait pas bien, et que ces patients-là peuvent bénéficier tout de même du traitement. Et puis, je vous rappelle quand même que dans l'AMM, la thrombolyse après 80 ans, c'est contre-indiqué. Mais on peut toujours, on a dépassé ce stade et avec l'avis d'un expert neurovasculaire, suivant l'état du patient, on peut le faire, du moins qu'on prévienne le patient et la famille. Les études qui ont été faites là-dessus, pour moi, sont inutiles. C'est-à-dire qu'on a comparé le devenir d'un patient qui était thrombolisé après 80 ans avec celui d'avant 80 ans. Ça vous donne des méta-analyses sur lesquelles je suis d'accord, on est tous d'accord. Quand on est après 80 ans, on récupère moins bien, on saigne plus qu'avant 80 ans. Ce n'est pas la question qu'on se pose quand on a ce type de patient. La question qu'on se pose, c'est est-ce que si je me thrombolise et je donne une complication importante, est-ce que je fais pire que l'évolution naturelle de ce type d'accident? Je ne le pense pas, c'est la question qu'on doit se poser et sur laquelle on va essayer de répondre. Cet exposé me permet en fait de rendre hommage à l'ensemble des équipes paramédicales avec qui je travaille tous les jours. Là, c'est celle de Bar-le-Duc. Je travaille également avec celle de Nancy grâce à la télémédecine, avec l'ensemble bientôt de toutes les équipes de Lorraine. Donc voilà, je les remercie, puis je vous remercie aussi pour votre attention.